Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Depuis la fin du confinement, tout le monde n'a pas repris le chemin des églises. Telles sont les paroles que nous entendons aussi bien à Chartres à la cathédrale que dans les villages. Et que se passe-t-il? Les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, ont semble-t-il peur d'attraper la maladie et on pourrait les comprendre. Pourtant, s'il est un lieu où les règles sanitaires ont été bien appliquées, c'est bien celui des églises. En effet, les bancs ont été écartés, des chaises ont été neutralisées, les masques sont obligatoires, la communion est donnée dans des conditions strictes pour éviter toute contamination. Mais il semblerait que ce ne sont pas seulement les personnes âgées et les plus à risque qui ont déserté les églises. Ont-ils pris l'habitude, pendant le confinement, de regarder le dimanche la messe à la télévision, tranquillement, assis dans le fauteuil du salon? Lors d'une conversation avec une personne d'un village qui me parlait de ce sujet, elle me dit que certaines personnes ont avoué que la messe ne leur manquait plus et que ça allait très bien comme ça. On reste bouche bée devant une telle affirmation. Si j'ai eu l'idée de parler de ce sujet, c'est que je suis en train de préparer un texte à présenter devant un groupe du mouvement chrétien des retraités de Versailles avec Sœur Claire, sœur de Saint-Paul de Chartres, qui a œuvré pendant une bonne dizaine d'années en Ukraine et qui continue à aider une paroisse où des oblats de Marie Immaculée tentent de restaurer une église. En effet, ce sanctuaire florissant avant l'arrivée du communisme avait évidemment été annexé par le pouvoir en place. L'église est devenue un vulgaire bâtiment, on a fait tomber des clochers et l'église est devenue une usine de plastique. Depuis la chute du communisme, l'église a pu récupérer son bien et tente de réhabiliter ce lieu pour en faire un sanctuaire, un lieu où des jeunes et des familles pourront venir en pèlerinage, suivre des sessions, des retraites et se ressourcer. Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Nous vivons dans un pays où la religion est autorisée. Nous pouvons aller à l'église librement. Nous pouvons effectuer nos pratiques religieuses sans risque. Dans tous les pays qui ont subi l'influence communiste, l'église a été interdite. Des chrétiens ont été persécutés. Et pourtant, une église souterraine, une église cachée, a continué à vivre. Chaque fois que la religion est interdite, la flamme n'est pas éteinte. Au contraire, elle continue à luire et n'attend que le jour où elle pourra éclairer à l'air libre. Cette politique cherchant à éliminer toute forme de religion et à instaurer un athéisme basé sur une vision matérialiste du monde était accompagnée de déclarations officielles niant toute persécution religieuse en URSS et assurant que les croyants pris pour cible le sont pour d'autres raisons, et pourtant que de prêtres, de religieux, de chrétiens emprisonnés, torturés, envoyés dans les goulags. Dès que la liberté de culte est revenue, cette église souterraine était là et a pu repartir très vite. Je parlais en début d'émission de cette église d'Ukraine désaffectée et transformée en usine. Heureusement, à Moscou et dans pas mal d'autres grandes villes, les superbes églises orthodoxes ont été préservées. Elles ont été souvent utilisées comme des lieux culturels et maintenant, elles ont pu reprendre généralement leur fonction d'église vouée au culte. Si nous évoquons la Pologne, 90% de la population est catholique et le taux d'observance religieuse, 40%, fait de la Pologne l'un des pays les plus pratiquants en Europe. Dans le diocèse, l'abbé Aubert et Pierre laïc consacré, apôtres de la Divine Miséricorde, ont largement contribué à faire connaître la grande sainte religieuse polonaise, Sainte Faustine. Là-bas, les églises sont pleines le dimanche et même en semaine, plusieurs messes se succèdent. Et ce pays, lui aussi, a subi les persécutions et l'interdiction de la religion à partir de 1945. Les persécutions antichrétiennes dans le bloc de l'Est, et plus précisément la campagne antireligieuse en Pologne, entre 1944 et 1990. Malgré les guerres, la russification, l'athéisme d'État, le pays a connu le renouveau charismatique, le syndicalisme chrétien avec Solidarność et Lech Walesa et de grandes figures chrétiennes catholiques. Jerzy Populesko, ce prêtre catholique polonais, né en 1947 et assassiné en 1984. Aumônier du syndicat Solidarność, il est une des figures emblématiques de la lutte contre les régimes communistes en Pologne. Le 3 novembre 1984, plus de 500 000 personnes rendent un dernier hommage au père Jerzy Populesko, dont les obsèques célébrées en l'église Saint-Stanislas Kosta de Varsovie insufflent une seconde vie au syndicat Solidarność, alors bâillonné. Le prêtre est inhumé au sein de sa paroisse et sa tombe est constamment couverte de fleurs. Un réseau de plusieurs dizaines de fidèles veille en permanence sur sa tombe qui devient lieu de pèlerinage. Le pape Jean-Paul II lui-même vint s'y recueillir en 1987. Et le père Populesko a été béatifié le 6 juin 2010 à Varsovie. Et bien sûr, la Pologne a donné à l'Église catholique Karol Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II et maintenant Saint Jean-Paul II. Qui aurait imaginé qu'un jour, un pape serait polonais, issu d'un pays sous domination communiste? Pendant des années, les papes étaient italiens. Sans remonter bien loin, au XXe siècle, les papes que les gens de ma génération ont pu connaître, ce sont Eugenio Pacelli, pape Pie XII, entre 1939 et 1958, Angelo Roncalli, le pape Jean XXIII, entre 1958 et 1963, Giovanni Battista Montini, pape Paul VI, entre 1963 et 1978, et Albino Luciani, pape Jean-Paul Ier, en 1978. Tous des Italiens. Et voilà que le conclave de 1978 nous donne un pape polonais. La suite, on la connaît. Grâce à son charisme, à sa détermination, il a contribué à la chute du mur de Berlin et à l'arrêt du communisme dans les pays de l'Est. Et comme l'affirmait Lech Walesa, notre pape a fait des choses grandioses. Sans lui, il n'y aurait pas eu de solidarité en Pologne. C'est le pape polonais et Solidarność qui ont contribué en quelque sorte à faire disparaître au XXe siècle le communisme en Europe. Et que dire de la persécution des chrétiens en Chine et dans d'autres pays asiatiques comme la Corée du Nord, le Laos ou le Vietnam? Aujourd'hui, au Vietnam par exemple, des congrégations religieuses ont encore pignon sur rue puisque les sœurs de Saint-Paul ont des maisons, des couvents et que des jeunes filles entrent dans la congrégation. Mais n'oublions pas que lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir au Vietnam, les religieuses avaient des écoles, des hôpitaux qu'elles ont dû abandonner. Interdiction de faire la classe aux enfants à partir du primaire. Il ne leur restait que le droit de s'occuper des écoles maternelles, des orphelins, des handicapés et de tous les blessés de la vie. En Chine, la répression a été terrible et aujourd'hui encore, des églises sont détruites et les catholiques vivent cachés. Nous ne connaissons pas notre chance. Nous pouvons vivre notre foi en nous réunissant dans nos églises, dans des lieux de culte. Nous pouvons aller en pèlerinage. Nous n'avons pas à nous cacher. Alors, n'ayons pas peur, comme disait Saint Jean-Paul II en 1978 dans la messe inaugurale de son pontificat. Je cite « N'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes du Christ, à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. » Fin de citation. Jean-Paul II nous donnait ce jour-là la clé de lecture de son pontificat, l'espérance. Au revoir et à demain.